Tout pour investir, la place de l'IMO.
La place de l'IMO est la place de la rénovation énergétique. Bonjour Marie-Cœur de Roy.
Bonjour Lorraine.
Notre invité aujourd'hui est Baudouin de la Varande. Bonjour Baudouin.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur d'ITAC, spécialiste de rénovation énergétique, et ça tombe bien parce qu'on ne peut pas dire qu'on en parle beaucoup dans le débat politique.
Non, on n'en parle même quasiment pas du tout. Et pourtant, il y a quand même quelques petites échéances. D'ailleurs, celle de cette semaine, 1er juillet, il me semble que c'était lundi, on nous avait promis un nouveau mode de calcul pour les petites surfaces, pour le DPE, parce qu'on se rendait compte que le mode de calcul initial les défavorisait grandement. Première question, Baudouin, est-ce que vraiment ce nouveau mode de calcul va permettre à tout un tas de petites surfaces de sortir de l'état de passoire thermique ?
Oui, je pense que ça va vraiment améliorer les choses. Nous, chez ITAC, on accompagne de nombreux clients dans leur projet de rénovation énergétique et du coup, le DPE est assez central quand même pour nous. Et ce qu'on observe, c'est que pour de nombreux propriétaires de petits logements, les moins de 40 mètres carrés, voire même les moins de 20 mètres carrés, c'était très compliqué de sortir du statut de passoire. Donc, c'est pas magique, il va falloir quand même faire des travaux de rénovation énergétique, mais ça va quand même changer la donne et ça va permettre à de nombreux logements de pouvoir passer cette fatidique lettre de F ou de E.
Et alors, je vous pose cette question-là parce que je vais rendre hommage à l'ancien patron de l'UNPI, Christophe Desmerson, avec qui je suis restée longuement hier au téléphone en visio. Il était dans un logement qui lui appartient, qu'il souhaite mettre à la location avec un diagnostiqueur. Il a réalisé, donc on est sur un petit logement de 28 mètres carrés. Il en a eu pour 35-40 000 euros de travaux. Il a refait l'isolation partout, hein, des sols au plafond en passant par les murs. C'est une dépendance, donc ça ressemble à une petite maison. Et il a tout refait. Et au final, il est avec le diagnostiqueur. On est en visio, je raconte l'histoire parce qu'elle est intéressante. Il reste en G s'il maintient avec un radiateur. S'il maintient son chauffage au radiateur électrique classique, un bon radiateur, hein, il reste en G. Il reste en G et il reste en G même d'après le nouveau mode de calcul sur les petites surfaces. Sa seule solution pour ne pas rester en G, c'est d'installer une pompe à chaleur et pour le coup, il passerait en D. En fait, avec le diagnostiqueur, on s'est amusé à faire fonctionner un petit logiciel. Ouais. Et s'il n'avait pas fait l'isolation, mais simplement installé une pompe à chaleur, il serait en E. En fait, il serait en E. C'est-à-dire que là, on se rend bien compte. Donc, il aurait le droit de louer pour 10 années supplémentaires. Donc, on se rend bien compte du peu d'influence de l'isolation par rapport au système de chauffage. C'est un peu contre-intuitif. Et puis, surtout pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui sont en mode travaux aujourd'hui. C'est compliqué de s'y retrouver, quoi.
Oui, effectivement, ça c'est un des problèmes dans la méthode actuelle du DPE, c'est que l'isolation n'est pas suffisamment prise en compte. En tout cas, la notion de confort qu'elle apporte et qui permet d'avoir un logement qui est plus agréable à vivre n'est pas suffisamment prise en compte. Ce qui donne envie de partir sur des solutions de type pompe à chaleur qui paraissent pour le coup être un peu magiques. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand même une pompe à chaleur dans un logement qui n'est pas du tout isolé, ce sera pas une bonne solution pour l'avenir. Donc il faut essayer de coupler les deux. J'aimerais bien répondre qu'il y a une solution magique,
mais justement c'était la discussion avec Christophe Desmerson, mais ça veut dire qu'en gros typiquement là, il pourrait mettre à la location un logement pas isolé, mais avec une pompe à chaleur pour encore 10 années supplémentaires. Ouais. Alors que là, il a fait l'isolation. S'il laisse les radiateurs, il n'est pas louable en l'état. Et pour autant, son locataire aura des factures qui resteront élevées. Même avec une pompe à chaleur, s'il n'y a pas l'isolation, il continuera à chauffer l'extérieur. C'est ça l'idée, quoi.
Oui, exactement. C'est sûr qu'il y a. Alors, il y a encore des cas limites. En tout cas, nous, dans tous les clients qu'on accompagne, c'est quand même assez rare de tomber sur ce cas-là. Donc, je pense qu'il y a une disposition du logement qui doit faire qu'il est dans un cas assez pénalisant. Nous, quand même, dans la majorité, pour rassurer, dans la majorité des cas, en isolant et en jouant sur le système de chauffage, on arrive sur des logements qui peuvent arriver à C, à D et qui, du coup, pourront continuer à
être loués. Mais on est d'accord, Baudouin, pour dire qu'il faut quand même faire dans la dentelle et que avant de se lancer dans les travaux, il faut quand même essayer d'auditer et de simuler tout un tas de travaux que je vais pouvoir, tout un tas de gestes que je vais pouvoir faire et leur impact sur ma note de DPE, parfois même au détriment de l'enjeu sur mes factures et sur l'écologie au sens large en fait.
Ah bah là, vous prêchez un convaincu, parce que c'est exactement, nous, notre conviction chez ITAC. Hein. On accompagne, nous, les propriétaires qui souhaitent faire de la rénovation énergétique avec un audit énergétique. On les accompagne pendant les travaux pour sélectionner les bonnes entreprises et pour récupérer les aides de l'État. Donc on est vraiment persuadé que pour lancer des travaux sur de bons rails, il faut commencer par se faire accompagner pour justement éviter de faire des bêtises. Ça peut paraître simple, on aimerait bien que ce soit simple, la rénovation énergétique, ça arrangerait tout le monde. Malheureusement, ça ne l'est pas et du coup, il faut se faire accompagner.
Et c'est d'autant plus important, et je terminerai avec ma petite histoire avec Christophe Desmerson, que le diagnostiqueur qui l'accompagnait nous disait au téléphone, il me disait, ce qui est terrible pour nous en tant que diagnostiqueur, c'est que derrière, parfois, quand on va retourner sur un logement qui a été avec des travaux importants et qu'on leur dit bah non vous restez en G, finalement on devient responsable pour les propriétaires alors qu'on n'y est pas pour grand chose. Nous on ne fait que mesurer avec le mode de calcul qu'on nous a donné, le logiciel dont on a l'usage et qui parfois nous met dans une situation problématique à l'égard des propriétaires. Donc
voilà. Attendez, parce que moi du coup j'ai une autre histoire à vous soumettre, hein. On fait flèche de tout bois puisque vous êtes là Baudouin. Il y a Anthony qui m'a écrit un petit peu plus tôt sur LinkedIn, il habite une maison BBC.
Oui, bâtiment basse consommation.
Construite en 2020, sous la réglementation RT de 2012. Et ses voisins ont fait construire en 2023, sous la réglementation RE 2021. Bon. Ils ont tous fait le même constat. Les maisons consomment peu l'hiver en énergie, mais l'été, elles sont, je cite, invivables. Elles dépassent les 24 degrés à l'intérieur dès le mois de mars, alors que le chauffage est coupé en été. Et ils approchent les 27 degrés, alors qu'ils vivent littéralement, je le cite, dans le noir avec les volets fermés. Cet inconvénient majeur a obligé certains de ses voisins à investir dans une clim. Et lui, notre auditeur Anthony, il a installé un rafraîchissement par le sol. Alors l'économie réalisée l'hiver est totalement effacée par la consommation de l'été et rend donc les maisons tout à fait éloignées de leur but initial. Voilà, vous allez nous expliquer ça, Baudouin. Et en plus, l'idée du surcroît à la construction qui perd tout son sens. Et je précise qu'il habite dans le 44, hein, donc il n'est pas dans le sud, en PACA ou dans le nord de l'Espagne. Qu'est-ce qu'on peut répondre à notre auditeur ?
On peut répondre qu'effectivement, la prise en compte du confort d'été, donc le fait de pouvoir être dans un logement confortable en été, avec les canicules qui sont en plus de plus en plus fréquentes, ça a été longtemps un sujet complètement mis de côté dans la construction et dans la rénovation énergétique aussi d'ailleurs. Et donc on a construit pendant longtemps des logements qui se révélaient être complètement des serres, donc des bouilloires thermiques, c'est le nouveau terme, qui font que dès qu'il y a un petit peu de soleil, on a l'impression de mourir de chaud. Il y a plein de solutions qui peuvent exister malgré tout pour améliorer.
La géothermie dont il parle cet auditeur, c'est génial hein, ça, hein, c'est quand même un truc, oui. C'est vieux,
le rafraîchissement vieux comme le monde. Par le sol.
Ouais, c'est ça, on va aller chercher la fraîcheur, vous savez qu'il y a une fraîcheur constante dans nos sous-sols, et donc on va aller chercher la fraîcheur dans les sous-sols pour finalement bénéficier de cette fraîcheur-là et de cette température finalement qui ne bouge pas toute l'année, donc c'est quand même assez et c'est précieux, et pour le coup c'est une solution très écologique.
Tout à fait, alors ça c'est une solution active, c'est-à-dire qu'on a mis en place un système qui permettait d'améliorer tout ça. Avant de penser à ces solutions, il faut penser aux solutions qui sont plutôt passives, et c'est ce que faisaient les personnes dans l'ancien temps, on va dire, il y a quelques dizaines d'années. C'est éviter que la chaleur rentre avant tout. Une fois qu'on a évité ça, on peut réfléchir à la manière de rafraîchir, mais du coup c'est mettre des volets sur ces fenêtres tout simplement. C'est mettre de l'inertie dans le toit, donc réfléchir à l'isolation, à des murs qui soient lourds. Tout ça permet, comme on le voit dans le sud, d'avoir des logements qui restent frais en été. Donc c'est des solutions qui méritent d'être creusées. Et puis dans un second temps, effectivement, on peut penser au rafraîchissement. Mais il y a avant tout des solutions passives qui sont très intéressantes à aller étudier. Et encore une fois, pour ça, il n'y a pas de secret, il faut se faire accompagner.
Bon, vous êtes quand même venu pour autre chose. Et moi, j'aime bien votre autre chose. Vous avez essayé d'établir un classement parce que on n'arrête pas de dire du mal de MaPrimeRénov parce que on a vu que le législateur avait beaucoup du mal à lui assurer une forme de stabilité. On revient en arrière, on repart à l'avant, on sait plus trop à quel sens se vouer sur nos aides, sur quel geste, sur combien de gestes, etc. Mais vous êtes allé chasser des primes locales. Et comme ça, on arrive à atteindre des montants très élevés d'aides locales. Après, toutes les villes ne proposent pas les mêmes aides. Et vous avez fait ce boulot d'enquête pour essayer de déterminer quelles étaient les villes qui aidaient le plus ceux qui faisaient la réno, et en plus en fonction de leurs moyens. Donc je ne vais pas faire de roulement de tambour, je vais vous demander quelle ville vous a le plus positivement surpris.
Alors, effectivement, le constat qu'on a fait, donc chez Itac, ça fait déjà plusieurs années qu'on accompagne les propriétaires dans plusieurs villes. Ouais. Et un constat qu'on a fait très rapidement, c'est que les aides locales, que ce soit de la région, du département, de la métropole, de la collectivité, étaient potentiellement très importantes, mais souvent complètement inconnues de la part des propriétaires. Donc on a voulu regarder tout ce qui se passait et effectivement on a été très heureusement surpris des montants. Les métropoles qui donnent le plus, subventionnent le plus la rénovation énergétique et surtout la rénovation énergétique globale, c'est donc la métropole de Rouen, la métropole de Lyon, la métropole de Nantes. On a également Strasbourg, Nice. Alors ça va dépendre du niveau de revenu. Chacune a un peu ses avantages et ses inconvénients. Mais globalement, ce qui est très positif, c'est que il y a de l'argent supplémentaire en plus de MaPrimeRénov qui permet vraiment de passer un cap et de pouvoir financer encore mieux son projet. Donc c'est très positif et c'est vraiment surtout ça qu'on a voulu mettre en avant.
Et ça, c'est hors MaPrimeRénov, du coup, tous les montants d'aide.
Exactement. Tout ça,
donc,
c'est
par exemple, si je regarde Lyon et votre classement, Lyon, Rouen, on est à plus de 16 000 euros pour les ménages, ce que vous appelez les ménages aux revenus supérieurs, plus de 16 000 euros d'aide auxquels s'ajouteront MaPrimeRénov.
Exactement. C'est tout à fait ça. Ça se cumule. Alors après, il y a des règles d'écrêtement qui sont un petit peu plus techniques, mais globalement, c'est les deux se cumulent. Donc sur un projet de rénovation d'ampleur, par exemple, sur un ménage aux revenus élevés, vous pouvez monter sur MaPrimeRénov jusqu'à 42 000 euros, si je ne me trompe pas, d'aide de MaPrimeRénov, auxquelles vont venir s'ajouter les aides de la métropole de Lyon ou de Rouen, qui peuvent s'élever jusqu'à 16 000 euros. Ça va dépendre des travaux que vous allez faire, mais on a modélisé des
globalement, travaux. Globalement, qu'est-ce qui est le plus aidé? Parce qu'on ne va pas faire la liste de tous les travaux, parce qu'on imagine que chaque ville ou chaque collectivité certains travaux et pas d'autres, voilà. Mais globalement, qu'est-ce qui est le plus aidé aujourd'hui par les collectivités locales?
Alors souvent, les collectivités encouragent la rénovation d'ampleur de manière plus massive et plus importante qu'à l'échelle de MaPrimeRénov, qui finance encore beaucoup le monogeste. À l'échelle de la collectivité, c'est souvent les projets d'ampleur. Donc en fait, c'est des bouquets de travaux. Et on va plutôt valoriser le fait d'arriver à une certaine lette énergétique.
Donc là, encore le DPE.
Encore le DPE, exactement. Voire d'arriver à un niveau basse consommation dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment ça qui est encouragé et qui est financé. C'est si vous atteignez ce niveau-là, si vous montrez que vous allez faire des travaux d'ampleur, à ce moment-là, je vous finance et je vous finance massivement.
Alors juste, je veux rentrer parce qu'il nous reste qu'une minute trente, ça passe trop vite. Comment je fais pour avoir ces aides? Parce qu'on a dit, c'est tellement l'enfer pour MaPrimeRénov. À qui je m'adresse? Est-ce que là encore, il y a des accompagnateurs? J'appelle Itac, allô, Baudouin, ça
va? Vous allez dire que je radote, mais il faut se faire accompagner. Non, la première chose à faire, c'est de contacter ces fameux accompagnateurs Rénov, comme Itac, ou sa collectivité. C'est-à-dire que si vous allez sur le site de France Rénov, du gouvernement, vous allez pouvoir contacter votre collectivité pour pouvoir en savoir plus sur les montants d'aide et sur les spécificités de votre région, de votre collectivité.
Mais par exemple, si moi j'appelle un accompagnateur Rénov, si je vous appelle vous, Itac, vous allez pouvoir me chasser toutes les primes auxquelles j'ai le droit, ou il va falloir que j'y aille un peu toute seule de mon côté?
Alors on va vous donner beaucoup d'informations sur comment les obtenir. Souvent les métropoles ont envie de garder la main sur ça, parce que ça leur permet de maîtriser la qualité. Et donc on va vous mettre en relation avec le bon interlocuteur dans la métropole, donc par exemple de Lyon ou de Rouen, pour que vous puissiez obtenir ces aides. Eux vont vous accompagner, vous ne serez pas tout seul. Ça, c'est vraiment un point très positif, c'est qu'ils vous accompagnent vraiment dans la récupération.
Auprès de l'artisan, etc.
Auprès de l'artisan, et surtout en partenariat avec l'accompagnateur Rénov. Donc tout ça est censé être très fluide. Et l'objectif, en tout cas, c'est de le rendre le plus simple pour les propriétaires.
La simplicité, c'est bien ce dont on a besoin. Marie, je vais vous donner du boulot. On a Eric qui nous suit en direct et qui a l'impression que nous aussi, on est dans le flou en tant que journaliste économique. Il vous questionne sur qu'est-ce que c'est qu'un bon radiateur. Vous avez parlé tout à l'heure d'un bon radiateur en nous racontant l'histoire
De Christophe Desmerson.
De Christophe Desmerson qu'on salue.
Alors.
Et donc, on ne va pas répondre maintenant parce que sinon, vous allez prendre tout le temps de ma chronique suivante. Mais cher Eric, on va vous répondre parce que c'est vrai que c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'un bon radiateur? C'est quoi le rendement d'un bon radiateur? Mais oui, c'est important. C'est les questions que se posent les gens et qu'on se pose.
Mais vous avez raison.
Et qu'est-ce qu'on entend par le bon rendement aussi, pareil, d'une pompe à chaleur? Est-ce que c'est le genre de question auxquelles vous répondez?
Tout le temps.
Parfait. Bah, vous allez venir nous re-répondre à cette question. Eric, vous avez raison, on est dans le flou un petit peu nécessairement. On essaye d'être moins dans le flou et on va apporter des solutions et des réponses concrètes à vos questions, notamment très pratiquement parlant, sur ce rendement de radiateur. Je vous propose qu'on fasse ça vendredi.
Oui, bah, voilà. Si vous voulez.
Qu'est-ce que c'est qu'un bon radiateur? C'est important, c'est votre argent, c'est votre maison et on vous aide dans cette rénovation énergétique qui est un sacré chantier. Mais bon, voyons le sujet sous un angle positif. C'est un chantier. On est dedans. On avance. Sinon, vous n'auriez pas monté votre boîte, Baudouin.
Ah bah exactement.
Voilà.
Avance dans le bon sens.
ITAQ, ITHAQUE pour vous qui nous écoutez en podcast et en radio.
Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.